Nous allons ouvrir notre Bible dans le premier livre de Samuel, toujours, au chapitre 16. Nous lisons les versets 13 et 14. 1 Samuel 16, versets 13 et 14. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Au chapitre 18, les versets 12 à 16, tout d'abord, chapitre 18, versets 12 à 16, et nous passerons ensuite aux versets 28 et 29. Je lis donc dans 1 Samuel 18, 12. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Verset 28, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. 29, Saül craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Galates, Galates chapitre 5, versets 16 à 26. Galates 5, versets 16 à 26. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Le grand directeur de chaîne pour lequel je travaille comme reporter ne m'a pas autorisé ce matin à tendre mon micro. Je vous l'avais annoncé hier. Je pensais pouvoir réaliser des interviews et des scoops, mais le programme a changé. Et la chaleur inconfortable de la nuit a été d'un grand secours, puisque j'ai pu cette nuit saisir l'étape de ce matin beaucoup plus clairement. Et nous allons donc, non pas, rassurez-vous, pour ceux qui sont dans l'attente de cette série d'interviews, non pas pour les escamoter, mais simplement pour les placer à un autre moment, notamment en particulier à cause du culte de demain matin, qui ne veut pas tout à fait s'inscrire comme une parenthèse au niveau de l'enseignement, mais permettre à nos amis qui vont nous rejoindre de ne pas trop perdre les pédales, puisqu'ils ne suivent pas la série dans son ensemble. Donc nous allons simplement faire un petit coup de saute-mouton et passer par-dessus les interviews et entrer de plein pied dans le domaine de la formation spirituelle de David, cette formation de l'homme spirituel en David. Je rappelle tout de même au préalable que nous avons souligné, notamment hier matin, dans notre conclusion, que David a été, d'une manière toute particulière, un homme véridique, soucieux de transparence, sans fard. Et la plus belle des démonstrations que nous ayons de ces affirmations se trouve dans ces psaumes. Ces psaumes vivants, palpitants, réalistes, dans lesquels cet homme de Dieu n'hésite pas à léguer à toute sa postérité à laquelle nous appartenons ces douloureux combats, ces incompréhensions, ces questions, ces sentiments d'échec, ces terribles tempêtes intérieures, ces grondements de révolte, généralement d'ailleurs suivis de cette sorte de retournement qui cesse de regarder aux circonstances ou à soi-même pour considérer le rocher de la foi. Ça, c'est une des beautés des psaumes de David que de voir comment subitement l'accent change et comment du soi on passe à lui, comment de l'anxiété on passe à la confiance. Il y a de ces mais qui comptent, de ces mais de retournement de situation qui sont aussi profondément bienfaisants. Mais quelle joie d'avoir dans les Écritures ces radiographies tellement nettes des états de cœur et des luttes de ce roi et de cet homme de Dieu. Vous savez, le premier livre de Samuel met donc en présence deux principaux personnages, David et Saül. Et au départ, nous avons en eux deux jeunes hommes pleins de promesses. Si nous disposions d'un camp plus long, nous aurions pu détailler beaucoup d'autres choses. Et nous aurions notamment considéré d'une manière toute particulière les débuts de ce qui nous est connu de la vie de Saül. Vous pourrez le faire. Et nous aurions eu beaucoup d'amitié pour Saül. Saül, au début de ce qui nous est connu de sa vie, au moment où il va être choisi pour devenir le premier roi d'Israël, est un personnage profondément attachant, sympathique, humble, qui saisit tout à fait ses dimensions, plein de générosité aussi, de largesse à l'égard des autres, soucieux du bien-être d'autrui. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Nous avons dans 1 Samuel 16 le début de l'histoire de David. Nous avons souligné, laissé entendre ses qualités spirituelles de droiture, d'intégrité, de passion de Dieu qui se sont développées par la suite dans sa vie. Et ce qui est frappant, c'est que si ces deux jeunes hommes sont pleins de promesses, Dieu, avec souffrance, devra rejeter l'un. Et je mets « rejeter » entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'utilisera pas. Mais il ne pourra l'utiliser comme un vase d'honneur. Il l'utilisera comme un vase d'un usage vil, selon ce que dit le Nouveau Testament. Mais il devra, donc entre guillemets, le rejeter, Saül, alors qu'il accompagnera de manière merveilleuse l'autre, David, jusqu'à la fin de ses jours. Et vous avez remarqué dans 1 Samuel 18 cette expression, je vous ai déjà signalé qu'elle revient à plusieurs reprises, que c'est une des excellences aussi du texte biblique lorsqu'il est question de David, l'Éternel était avec David. L'Éternel était avec lui. 1 Samuel 18, 12, 14, 28, mais nous pourrions ajouter tant d'autres textes. Et puis il y a cette conclusion émouvante à la fin du pèlerinage terrestre de David dans 1 Roi 1, 29, « L'Éternel est vivant, lui qui m'a libéré de toute détresse. » Quel beau témoignage de ce vieillard. « L'Éternel est vivant. » Et chaque fois que dans les Écritures et dans l'Ancien Testament en particulier, cette expression « L'Éternel est vivant » est utilisée, c'est toujours pour être accompagné d'un Dieu agissant. L'Éternel est vivant, c'est un Dieu qui agit, qui intervient dans l'histoire des hommes et qui intervient en particulier en libérateur, qui fait acte de puissance dans les situations difficiles que l'homme peut connaître. Chez Saül, nous trouvons une lacune fondamentale, un manque d'obéissance. Un esprit d'autonomie, plus que d'indépendance, d'autonomie dans ce sens qu'il a fini par se créer son propre monde de loi personnelle à l'égard de Dieu. Un orgueil sournois se développant comme un cancer aux multiples métastases. Saül refusera la discipline de Dieu. Il refusera ce que nous appellerons la croix, l'apprentissage de la dépendance de Dieu. Il se refusera à entrer dans le temps de Dieu, à vivre dans l'heure de Dieu. Il précédera souvent le temps de Dieu dans un zèle intempestif, charnel, soi-disant au service de l'Éternel. Et puis il n'y aura pas dans la vie, dans le développement de la vie de Saül, cet amour de la vérité qui caractérise David. J'ai relevé dans un livre remarquable que je viens de lire pour la seconde fois sur quelques mois, qui s'intitule « Une vie chrétienne enrichie », de celui qui a été le fondateur et l'homme de vision de ce qu'on appelle l'Alliance chrétienne missionnaire, Simpson. qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Nous avons hélas très peu de ses ouvrages en français. Mais depuis peu de temps, l'Alliance chrétienne missionnaire du Québec a sorti ce livre que je vous recommande vivement. Il est d'une grande richesse spirituelle tout en étant très pratique, une vie chrétienne enrichie. Nous aurons l'occasion d'en citer quelques extraits ici et là. Et dans ce livre, Simpson notamment écrit ceci, la vie du moi, nous y reviendrons, nous ramène à la domination de Satan. Il est tout probable que la chute de Satan a pris naissance sous la forme de l'amour de soi. Créé pour dépendre à tout moment de Dieu, il a désiré l'indépendance. En contemplant sa propre perfection et en s'imaginant qu'elle lui appartenait en propre, il s'est trouvé séparé de Dieu et s'est rebellé contre lui. Cette attitude conduit à une rivalité éternelle, à la désobéissance, et à tout ce qui peut être opposé à la vie divine et sainte. Toute personne qui devient autosuffisante ou qui commence à s'absorber dans ses propres vertus, ça a été un des gros problèmes de Saül, de s'absorber dans ses propres vertus, et qui essaie d'être indépendante de Jésus, tombera sous la puissance de Satan et partagera sa terrible chute. Jésus doit être la source de notre force et le but suprême de tout notre être. Toujours dans le même livre, dans un autre chapitre, Simpson évoque Saül et David sans s'apesantir sur leur histoire. Et il dit notamment ceci, il est clair que la nature du péché de Saül résidait dans l'élément que constitue un esprit volontaire et entêté. Il avait osé substituer ses propres idées et préférences à la parole de Yahvé. Dès ce moment, son obéissance est forcément devenue conditionnelle et bien sûr inutile. Alors Dieu a envoyé son prophète pour choisir un autre roi qui, quoique pétri d'imperfections humaines, possédait cette chose unique sur laquelle Dieu pouvait entièrement compter. Il s'était donné comme but d'obéir à Dieu quand il comprenait sa volonté. Voilà pourquoi Dieu a dit de David, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » David a commis beaucoup d'erreurs et de péchés noirs et terribles, mais il les a commis sous l'emprise d'une forte tentation et aveuglé par la passion et l'impétuosité. Jamais il n'a péché dans le but délibéré de désobéir à Dieu. La triste histoire de la chute de Saül et finalement de sa ruine tragique devrait nous suffire pour nous faire trembler devant le danger qui menace tout individu entêté. Qu'elle nous pousse à crier « Mon Père !» Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans un autre petit livre, intitulé « Petites lumières » et qui est aussi un de mes livres de chevet depuis pas mal d'années, c'est un très vieux livre qui a été republié d'ailleurs il y a quelque temps, l'auteur Steinberger dit ceci à un moment donné, tout ce que nous n'abandonnons pas, nous ne le gardons pas pour nous, mais pour l'ennemi qui s'en empare et s'y établit. Ce que tu t'es réservé, en fait, de joie, deviendra tôt ou tard entre les mains de l'ennemi une arme au moyen de laquelle il te tourmentera et te préparera des défaites. Car c'est dans la recherche pour soi et dans la crainte pour soi que se trouvent toutes les embûches du diable. David, nous venons de le lire, un jeune homme, pécheur certes, mais assoiffé de Dieu, d'intégrité, de droiture de cœur, prêt à se laisser former, déformer, transformé, brisé au niveau de ce moi propre, édifié Donc un véritable disciple, un apprenti, que Dieu va donc pouvoir former, façonner d'une manière toute particulière pendant près de 14 années sans doute, tantôt sur la scène, tantôt dans les coulisses, mais en tout cas dans les domaines fondamentaux de la vie. Droiture de cœur, dépendance, vie de prière, obéissance, fruit de l'esprit. Ayant accepté d'être formé de cette manière, David servira ensuite pleinement le dessein de Dieu et accomplira toutes ses volontés. Et là aussi, j'aimerais vous citer un extrait du livre de Watchman Nee intitulé « Le vrai serviteur », un livre remarquable. Il y a une certaine inégalité de valeur dans les livres de Watchman Nee. Certains sont lumineux par l'excellence de leur contenu, là où d'autres nous laissent quelques réserves, mais qu'il en est ainsi de tout auteur, en fait. Et Watchman Nee, dans Le vrai serviteur, dit notamment ceci. Dès le début de leur vie chrétienne, certains jeunes montrent des qualités prometteuses qui, développées peu à peu, pourront leur permettre de devenir des serviteurs utiles à Jésus-Christ. D'autres, par contre, bien que nantis de dons, soulignons-le, à l'heure où les dons occupent une place très développée dans la pensée évangélique, sans doute à cause du peu de place qu'ils occupaient dans l'enseignement dans le passé. Ce n'est pas la seule raison. Donc d'autres, par contre, bien que nantis de dons, ne tardent pas à rétrograder et à couvrir de déshonneur le nom du Seigneur. Pourquoi cela, demanderez-vous? Permettez-moi de vous répondre franchement. Certains traits fondamentaux dans la constitution de chaque serviteur détermineront si celui-ci pourra être utilisé par le Seigneur ou non. Un jeune homme peut présenter certains traits de caractère prometteurs pour l'avenir, mais si d'autres essentiels lui manquent, il ne sera qu'un sujet de désappointement. Même s'il désire ardemment servir le Seigneur, il peut ne pas manifester les dispositions du véritable serviteur. Par exemple, nous n'avons jamais vu un serviteur de Dieu qui manque de maîtrise de soi devenir un bon ouvrier, ni une personne désobéissante être de quelque utilité pour le Seigneur. Pour qu'un serviteur de Dieu puisse donner pleine satisfaction, il faut donc qu'il remplisse certaines conditions. Aussi, un travail de brisement et d'édification doit-il s'opérer en lui. Le Seigneur forme ainsi les ouvriers qui pourront faire face aux besoins de son œuvre. Beaucoup de candidats sont entravés, non par leur ignorance ou leur incapacité, mais par une lacune fondamentale dans leur personnalité. L'homme est mauvais. Aussi devons-nous nous humilier devant Dieu et nous soumettre à une discipline indispensable si nous voulons remédier aux imperfections de notre caractère. Et c'est là que ça grince. C'est là que ça grince, et ça grince beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Parce que nous vivons dans un temps où la rapidité règne, où rentabilité rime avec vitesse. Et inévitablement, l'Église de Jésus-Christ subit des pressions dans ce domaine. Et plus l'Église de Jésus-Christ est faible, plus elle se désarime, si vous voulez, de la parole de Dieu. Moins elle vit dans l'intimité de Dieu, plus elle est tentée d'adopter les mêmes équations que le monde, à savoir rentabilité rime avec rapidité. Nous avons, il y a peu de temps, Tina Emmanuel, notre quatrième, et moi-même visiter la bambouserie de Prafrance aux portes des Cévennes à Anduze. Nous l'avions déjà visité plusieurs fois, mais nous voulions absolument que notre garçon puisse profiter de ce lieu paradisiaque, en particulier lorsqu'il fait très chaud, et en même temps riche d'une foule d'enseignements très intéressants sur le bambou, sur la nature, et nous avons d'ailleurs bénéficié des services d'un guide qui était très doué, qui avait beaucoup d'expérience derrière lui, un véritable chercheur dans le domaine de la nature, et nous nous sommes donc régalés. Le guide nous a notamment montré un bambou âgé de 3 semaines. C'était au mois de juillet. Et il nous a dit, voyez-vous, ce bambou grandit actuellement. Il a été plein de nuances, et c'est là qu'on a reconnu l'ingénieur et l'homme soucieux dans sa science, qui ne voulait pas vous en mettre plein la vue, et qui tenait à mettre les nuances là où elles devaient être. Il nous a dit, voyez, en ce moment, dans cette période-ci, pas toute l'année, mais en ce moment, ce bambou croît, grandit de 80 cm environ par jour. Impressionnant. Et puis ensuite, il l'a frappé sur ce bambou. Il s'est demandé de bien écouter. Puis il s'est tourné vers un autre bambou à 1 mètre de là, et il a frappé. Et je dis, vous avez entendu, que déduisez-vous du son que vous avez entendu sur le premier bambou et sur le second? Et finalement, c'était intéressant parce que la leçon était claire, le son était tout à fait différent sur le second bambou, tout simplement parce qu'il s'agissait d'un bambou plus âgé, qui avait terminé sa croissance, qui n'était plus du tout gorgé d'eau. Et je dis, vous voyez, il y a une différence énorme entre ces deux bambous. Si jamais il y a des problèmes climatiques, un bon orage, ce bambou de 3 semaines, nous le perdons. D'ailleurs, il y a eu une tempête dans cette bambouserie, dont vous savez ou vous ne savez pas quelle est la plus importante d'Europe et de loin. Il y a eu une tempête qui a abîmé cette bambouserie, je ne sais pas si ce n'est pas dans sa moitié en juillet. Et il nous a donc parlé de fragilité. Il nous a dit, voyez, nous sommes dans un temps, et j'ai été tellement heureux de l'entendre, nous sommes dans un temps où on veut aller vite. Alors voyez ce que coûte la croissance rapide. Il suffit d'un rien pour que ce bambou soit blessé et meure. Il est d'une extrême fragilité dans sa croissance fragile, dans sa croissance rapide. Alors que l'autre a déjà de la fibre, et alors il est d'une solidité absolument incroyable. Et vous savez qu'on peut faire avec le bambou des choses absolument extraordinaires. Tant un bambou qui a achevé sa croissance est d'une solidité absolument incroyable. Quelle parabole que cette histoire de bambou. Je pense à cet étudiant qui désire entrer dans une école biblique et qui demande au directeur de l'école biblique qu'il se proposait de fréquenter s'il ne pouvait pas prendre un cours plus bref que celui qui était prévu, par exemple faire ses études en 2 années plutôt que 3. Et le directeur de lui dire, mais bien sûr que vous le pouvez, mais tout dépend de ce que vous voulez devenir. Et le directeur d'ajouter avec beaucoup d'humour, quand Dieu veut faire un chêne, il y met 100 ans, mais quand il veut faire une courge, 6 mois lui suffisent. Et voyez-vous, la formation de l'homme spirituel, elle prend du temps. Et c'est certainement le plus grand des enseignements de ces longs chapitres, 16 à 30, et puis le début du deuxième livre de Samuel. Cette longueur, ces 10 à 14 ans, nous lance un message. L'école de formation de l'homme spirituel prend du temps. Et Dieu est patient. Et la seconde leçon, c'est que cette école de formation de l'homme spirituel passe par la souffrance. Encore un mot qui est fui à l'heure actuelle, qui est fui dans ses significations. Jamais l'homme n'a été autant confronté qu'aujourd'hui avec le problème de la souffrance. Il y a une densité de souffrance qui est terrifiante dans le monde d'aujourd'hui. Partout autour de nous. Et bien entendu, le péché qui prend des proportions terrifiantes aujourd'hui accentue, augmente cette souffrance, la rend aussi beaucoup plus complexe au niveau des processus de guérison. Et la rend d'autant plus angoissante qu'on escamote complètement les significations de la souffrance. Je suis frappé dans l'étude de la parole de Dieu de voir la place que la souffrance y occupe. Ne serait-ce que dans la vie de celui qui nous a sauvés. Quelle souffrance dans la vie du Seigneur Jésus. Quelle richesse, oui, mais quelle souffrance. Simpson souligne ceci par quelques mots en disant, afin de pouvoir lui enseigner sa toute-puissance et sa fidélité absolue, Dieu dut contraindre David à une discipline longue et pénible qui se prolongea pendant des années. Par ce moyen, Dieu lui apprit comment croître dans les principes établis de la foi et de la piété qui étaient indispensables pour sa position ultérieure et glorieuse de roi d'Israël. Pas de croissance sans souffrance. C'est un message qui est respiré par toute la nature autour de nous. Quel langage de souffrance dans la nature. J'ai sous les yeux une définition possible du diamant. Et l'auteur dit ceci simplement, un diamant est un morceau de charbon qui a fait son chemin sous la contrainte. Et c'est vrai. Il n'y a absolument rien de faux dans cette définition. C'est une sorte de ramassé tout à fait scientifique. Un diamant est effectivement un morceau de charbon qui a fait son chemin sous la contrainte. Et véritablement, David est devenu un diamant. Même si toute la fin de sa vie a été assombrie par cette chute dans l'adultère avec Bathsheba qui lui a fait perdre toute une partie de son autorité. C'est ce qui nous fait beaucoup de peine. À partir de la chute avec Bathsheba, David perd toute une partie de son autorité. Il ne peut plus intervenir dans un certain nombre de conflits parce qu'il sait qu'on va lui renvoyer là-bas. En lui disant, écoute, ne cause pas, regarde à toi-même. Il y a là un enseignement bouleversant, mais sur lequel nous ne pourrons pas nous arrêter. Mais considérons-le, parce que l'Écriture le considère ainsi, dans la grâce du pardon qu'il a reçu pleinement de la part de Dieu, qu'il a quand même béni jusqu'à la fin de ses jours. Considérons que David est un véritable diamant sur le diadème de notre Dieu. Mais un diamant qui était un vulgaire morceau de charbon, qui a fait son chemin sous la contrainte. Je ne sais pas si vous savez comment on peut découvrir un vrai, ou faire la distinction entre un vrai et un faux diamant. Comme je n'ai pas jusqu'ici possédé de diamant, je n'ai pas pu faire l'expérience moi-même, mais je pense que celui qui donne cette explication, lui, a fait l'expérience. En tout cas, c'est un bijoutier qui explique que pour découvrir un faux diamant, c'est l'épreuve de l'eau qui est le plus sûr indice. Tout simplement parce qu'un faux diamant ne brille jamais comme un véritable. Si vous le voulez, si vous avez des diamants, je vous encourage à mettre la pierre sous l'eau. Le faux diamant est éteint, tandis que le vrai brille même dans l'eau. Et là aussi, il y a tout un message concernant l'épreuve. Il y a aussi des moments où Dieu nous fait passer par des situations très difficiles, nous fait traverser des fleuves, nous fait pénétrer sous l'eau de l'épreuve, de manière à ce que nous puissions donner la preuve que nous sommes en train de devenir de véritables diamants, mis à l'épreuve pour que nous devenions des preuves pour Dieu. C'est François Coillard, ce fameux missionnaire, notamment du Zambèze, dans un passé déjà assez lointain, qui écrivait ceci: les épreuves, quelle qu'en soit du reste la nature, sont l'engrais de la vie spirituelle. L'engrais de la vie spirituelle. Et cette autre femme de Dieu, remarquable, à la fois dans son ministère, dans ses écrits, dans la variété d'images qu'elle a su utiliser pour évoquer les grandes leçons de la vie spirituelle, Amy Carmichael, qui est partie auprès du Seigneur en 1951 et qui a œuvré en Inde comme missionnaire pendant 55 années, qui a été utilisée par Dieu pour intervenir dans ces situations culturelles si difficiles de la prostitution des fillettes, etc. Elle a été bénie de Dieu dans son ministère et elle évoquait une expérience qu'elle avait vécue étant enfant. Voilà ce qu'elle écrit. Quand j'étais jeune, j'avais l'habitude d'enfoncer mes mains dans la boîte à farine dès que j'en avais l'occasion. Rien, ni la peau de phoque, ni le pelage d'un chat, ni le velours, ni même l'eau, ne me semblait aussi merveilleusement doux et délicat que la fleur de farine. Plus tard, quand j'ai lu Lévitique et Nombre et que j'ai découvert que la farine était utilisée comme type de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris au moins une raison pour laquelle on le comparait à la fleur de farine. Celle-ci a été moulue au plus haut point. Notre divin Sauveur était de la fleur de farine dès le début. Et pourtant, d'une manière terrible, il est passé au moulin de dures épreuves. Il a souffert, il a été tenté. Pas de vraie croissance sans souffrance. Bien sûr, nous nuancerons tout cela d'ici mercredi. Mais j'aimerais, dans la dernière partie de notre réflexion de ce matin, qui aboutira à des considérations tout à fait pratiques, j'aimerais quand même poser une remarque préliminaire essentielle. Parce qu'elle nous turlupine. C'est quelque chose qui nous ennuie, qui nous dérange. Nous ne savons pas très bien prendre par le bon bout. Et cette remarque préliminaire concerne la place de Dieu d'une part, et de Satan, d'autre part, dans la souffrance. Quelqu'un écrit très justement, à partir de l'instant de votre conversion, le diable vous inscrit dans son carnet d'adresse. C'est vrai, c'est vrai. Et une question donc va bientôt se poser. Lorsque celui qui vient de se convertir à Jésus-Christ est secoué, commence à connaître les turbulences de l'altitude dans la présence de Dieu, ses difficultés, et qu'on lui dit c'est le diable. Il arrive un moment, il se dit, oui, d'accord, on me dit c'est Dieu, c'est le diable. Où est la vérité dans tout cela? Quels sont les rôles respectifs de Dieu et de Satan dans les difficultés que rencontre le disciple de Jésus-Christ sur sa route? Les circonstances, les situations, toutes les souffrances qui tissent la vie du croyant, non pas, dans un premier temps, celles qui sont directement liées à une attitude coupable. Et là, je précise, il y a un grand changement dans la pédagogie de Dieu par rapport à la souffrance lorsque nous sommes en train de pécher et à la souffrance consécutive à notre péché lorsqu'il a été confessé par une authentique repentance, par un retournement de notre mentalité qui s'aligne sur celle de Dieu et qui reconnaît humblement sa culpabilité. Alors, quand il y a le pardon paternel de Dieu qui intervient, une autre pédagogie de Dieu se met en place, qui rejoint ce que nous disons. Mais bien entendu, la souffrance qui est directement liée au péché non confessé contient un autre message que je ne veux pas développer ici, mais il y a dans cette souffrance tout un message d'avertissement. Il y a là des petits voyants lumineux qui commencent à clignoter au tableau de bord de notre vie personnelle et par lesquels le Saint-Esprit nous pousse de tout son cœur, pourrions-nous dire, vers la croix, pour que nous plaidions coupables. Alors, quelle est la réponse? Et j'aimerais voir ceci avant de l'appliquer à ces 10 à 14 ans de la vie de notre ami David. Nous allons lire dans l'épître de Jacques au chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er. Quelques versets. Tout d'abord, les versets 2 à 4. Jacques chapitre 1er, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. La version Tob traduit ainsi, prenez de très bon cœur les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, sachant que le test de votre foi, les deux mots épreuve que vous avez au verset 2, au verset 3, ne sont pas les mêmes dans le texte original. Le second, épreuve, est différent du premier et signifie test, examen de passage. La mise à l'épreuve, le test de votre foi produit la patience. Il serait presque préférable de rendre par endurance, par constance, par persévérance, par ténacité, le fait de tenir sous un joug de difficulté sans craquer. C'est un mot très particulier ici. Mais il faut que cette endurance, cette constance accomplisse parfaitement son œuvre
afin que vous soyez parfaits, c'est-à-dire adultes, accomplis, sans faillir en rien. Alors vous avez cette expression, les diverses épreuves. Épreuves. Et je trouve que le mot grec qui est utilisé ici a deux sens. Il peut être traduit de deux manières. Il peut être rendu précisément en français par le mot épreuve, c'est le choix qui a été fait par le traducteur ou l'équipe de traducteurs, mais il peut aussi être rendu par tentation. Et quand les traducteurs sont en face de mots comme celui-ci, d'ailleurs tout comme une kyrielle d'autres mots dans les Écritures qui peuvent être traduits de diverses manières, ils vont tenir compte du contexte. D'une part d'un contexte immédiat, d'autre part même d'un contexte beaucoup plus large. Et c'est ce qui fait ici que le contexte préside à ce choix. Par contre, si vous allez au verset 12 maintenant, il est dit « Heureux l'homme qui supporte, qui endure », c'est le même mot que le mot, bon c'est le verbe, n'est-ce pas, que le mot « patience », produit la patience. Eh bien là vous avez le verbe. On est toujours dans le même sujet, il est question d'endurance, de constance, de ténacité. Heureux l'homme qui endure, patiemment, qui endure simplement la tentation. C'est le même mot que traduit tout à l'heure par épreuve, c'est le même mot grec. Mais cette fois-ci, il est rendu par tentation. Et vous allez voir pourquoi. Car après avoir été mis à l'épreuve, testé, après avoir passé son examen de passage, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Et là, nous avons le contexte qui fait qu'effectivement, les traducteurs ont rendu ce mot grec non pas par épreuve, mais par tentation. Parce que toutes les Écritures affirment très fort, comme nous allons le voir, que Dieu ne tente pas. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, par les désirs qui sont là au fond de nous-mêmes, qui montent du fond de notre cœur naturel. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, lorsqu'elle a été fécondée, c'est ainsi que traduira Top, et c'est très juste, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Épreuve, tentation, un seul mot grec. Épreuve, tentation, tout cela fait partie du programme de la souffrance. Derrière l'une comme l'autre, il y a un grand mot, souffrance. Alors nous allons considérer que cette pièce de 5 francs est symbole de souffrance. Elle cristallise, elle manifeste, n'est-ce pas, la souffrance. Et nous disons donc que d'un côté, vous avez par exemple le pile de la tentation et de l'autre, le face de l'épreuve. Que nous dit ce texte? Tout d'abord, ce texte nous dit que Dieu ne tente jamais. Et en réalité, il manque quelqu'un dans ces versets 12, 13 et 14 et 15. Il est question de conception, d'enfantement, mais manifestement, pour des raisons tout à fait pratiques, Jacques a évacué un personnage. Et ce personnage, bien entendu, c'est le diable. Jacques a trouvé bon de l'évacuer très certainement parce qu'il avait affaire à des croyants qui étaient peut-être tentés de mettre trop de choses sur le dos du diable. C'est le diable. Et vous savez qu'il peut y avoir dans nos vies cette tendance à mettre trop facilement nos péchés sur le dos du diable plutôt que de nous responsabiliser. Il y a hélas une mode qui voit des démons partout et finalement, chaque fois qu'on a un problème, cela veut dire qu'on a un démon, on n'en est pas donc responsable, il faut le chasser, puis tout ira mieux après. Alors Jacques dit, attention, il y a bien des choses qui sont directement du ressort de notre propre responsabilité. Mais le diable est quand même là derrière comme le père qui permet la conception du péché. Il est à l'origine de la tentation. Il utilise nos convoitises. Il utilise les désirs de la chair, de ce que j'appelle communément, parce que c'est facile et ce n'est pas de moi, c'est la maréchale Bouffe qui le disait, l'hippopotame moi. Hein. Il utilise les désirs du moi non régénéré pour nous amorcer et pour nous conduire à la mort. Il y a dans la tentation un but méchant. Satan vise la destruction, la chute, la mort, l'enfer. Et tenter, c'est en quelque sorte mettre à l'épreuve, mais mettre à l'épreuve de manière négative. C'est quelqu'un qui nous veut du mal, qui met notre force morale à l'épreuve dans le but de nous faire succomber. La tentation est une séduction, est une sollicitation au mal. Il y a dans la tentation une dimension négative. Nous ne sommes bien entendu, disons-le au passage, pour le cas où quelqu'un pourrait être troublé, nous ne sommes pas coupables d'être tentés. Le problème n'est pas dans la tentation. Le problème, c'est lorsque nous entrons dans la tentation, c'est-à-dire que nous nous impliquons dans le processus et que nous commençons à entretenir une forme de dialogue, lorsque nous commençons à flirter avec le tentateur, lorsque nous entrons dans son jeu. On l'a souvent dit, ce n'est pas le premier bref regard qui est coupable, mais c'est ce regard prolongé dont on se délecte et qui ensuite va parfois passer de la pensée au comportement, du comportement à l'acte, etc. N'est-ce pas? Il y a parfois des croyants qui sont profondément malheureux parce que simplement ils passent par un temps de tentation terrible. La tentation en elle-même, elle fait partie de la marche du disciple de Jésus-Christ. Nous dirons simplement que la puissance des ténèbres n'est que dans son rôle, qui correspond à son caractère, lorsqu'elle nous tente. Dieu ne tente jamais, mais par contre, Dieu éprouve. Nous avons étudié il y a 2 ans, je crois, toute l'histoire d'Abraham lors de 2 camps de famille successifs. Et nous avons passé du temps dans le sommet de la foi d'Abraham, dans l'épreuve suprême d'Abraham, dans Genèse 22, verset 1, qui commence par ces mots, « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». Il lui demande donc ce fils bien-aimé unique Isaac. Dieu éprouve dans ce sens qu'il nous met à l'épreuve pour nous amener à un choix qu'il désire positif. Dieu veut faire du bien, Dieu veut construire, Dieu veut purifier, Dieu veut bénir, y compris, nous allons le voir, en particulier lundi matin, par des situations de dépouillement, par des situations difficiles. En quelque sorte, Dieu vise le ciel, parce qu'il nous aime. Et d'ailleurs, vous remarquez dans l'épître de Jacques qu'immédiatement après ces versets 13 à 15, viennent bien entendu les versets 16 et 17, toujours parce qu'il y avait, semble-t-il, un trouble dans les définitions de certains principes chez les lecteurs de l'épître de Jacques. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. La tentation n'est pas une grâce excellente, mais l'épreuve s'inscrit dans ces grâces excellentes. Dieu vise le ciel parce qu'il nous aime. Alors résumons tout cela. Chaque épreuve contient, bien entendu, une dimension de tentation. C'est-à-dire que quand Dieu nous éprouve, Satan est à l'affût. Et Satan cherche, comme toujours, à s'emparer de l'épreuve pour que l'effet de cette épreuve soit un effet négatif. Il essaye de polluer l'épreuve. Il est là, à l'affût. Et il se sert de l'épreuve à laquelle Dieu nous soumet pour nous tenter de manière à ce qu'elle n'aboutisse pas à quelque chose de positif. Si, quand Dieu nous éprouve, seulement Satan réussit à nous détruire, il sera heureux. Maintenant, l'inverse est intéressant aussi. C'est que chaque tentation a sa dimension d'épreuve. Dans ce sens que lorsque nous sommes tentés, cela n'échappe pas à Dieu, qui veut nous voir triompher dans la tentation, qui veut nous faire du bien, qui va nous accorder son soutien, de manière à ce que cette tentation qui est là pour nous pousser vers le mal finisse par être transfigurée, métamorphosée, et tourne à notre bien spirituel. C'est là la raison fondamentale, bibliquement parlant, de l'utilisation d'un seul terme allant dans ces deux directions apparemment contradictoires. Vous avez remarqué cette sorte d'interpénétration, en quelque sorte, de l'épreuve positive et de la tentation négative. Et là où cela devient très intéressant, et où je terminerai simplement ce matin, c'est de se poser ensuite la question, j'ai bien entendu sorti cette pièce d'un porte-monnaie. La question qui se pose est très simple, mais cette pièce, dans le domaine spirituel, concernant la souffrance, avec sa double dimension d'épreuve et de tentation, dans quel porte-monnaie elle se situe? Qui est le véritable possesseur de la pièce? Est-ce la puissance des ténèbres ou est-ce Dieu? Et c'est là, n'est-ce pas, que nous pouvons nous réjouir lorsque nous réalisons, même si nous ne le comprenons pas toujours, ce n'est pas notre thème pendant ce camp, que ce mystère de la souffrance, il y a bien des choses que nous ne saisissons pas, mais nous en saisissons suffisamment à travers tout ce que Dieu nous dit, et Dieu nous dit beaucoup de choses dans les Écritures. Et Dieu nous donne beaucoup d'enseignements à travers l'histoire de l'Église, à travers l'histoire de ses enfants, depuis des millénaires, pour que nous puissions accepter ce que nous ne comprenons pas. Mais ce qui nous fait du bien, c'est de savoir que cette pièce, elle est dans le porte-monnaie de Dieu. De Dieu. Et il y a toute une tendance évangélique aujourd'hui qui donne au diable un honneur qui ne lui revient pas. Comme si nous étions une sorte de jouet de la puissance des ténèbres, ou même encore comme si il y avait cette espèce de dualisme dans la vie chrétienne, que nous soyons continuellement écartelés entre deux puissances de valeur égale. D'un côté, le diable, de l'autre côté, Dieu, d'un côté, les ténèbres, de l'autre côté, la lumière, c'est ce manichéisme, n'est-ce pas? Et finalement, tantôt c'est le diable qui gagne, tantôt c'est Dieu qui gagne. Certains croyants réduisent la vie chrétienne à cette espèce de combat entre deux forces égales. Et il y a eu d'ailleurs des fausses doctrines qui se sont infiltrées dans l'Église de Jésus-Christ et qui ont conduit à des positions de ce genre. Heureusement, nous bénissons Dieu de ce que la pièce se trouve dans le porte-monnaie de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu éprouve, mais aussi permet la tentation, qu'il contrôle parfaitement. Et là, nous avons ce beau verset d'un Corinthiens 13 qui a été un secours extraordinaire dans la vie de tant d'enfants de Dieu. Un Corinthiens chapitre 13, 10, pardon, verset 13, un Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, voilà le côté épreuve, voyez, afin que vous puissiez la supporter. Toujours le même mot grec. Et le souci des traducteurs, de tenir compte du contexte, notamment immédiat, et le contexte immédiat, il est dans les versets d'au-dessus, qui font allusion à l'histoire du peuple d'Israël, au désert, aux tentations du désert, et à la manière dont aussi le peuple a tenté Dieu également. Alors sur cette base-là, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et c'est Dieu qui est fidèle, qui va contrôler tout cela. Alors, nous nous arrêtons là, de manière à ce que dans notre prochaine étude ensemble, nous appliquions cet aspect d'enseignement doctrinal. Nous avons fait de la doctrine, nous avons essayé de l'imager et de l'illustrer pour que nous comprenions bien, mais à partir de là, nous allons appliquer cet enseignement à la formation de l'homme spirituel dans la vie de David, dans cette terrible confrontation sans pitié entre David, le roi selon le cœur de Dieu, mais le roi en puissance, et Saül, le roi déchu. Nous évoquerons ce qu'on appelle la guerre des deux trônes, et nous verrons comment appliquer ce message doctrinal. Nous allons le voir s'incarner dans la vie d'un homme de la même nature que nous. Et puis ensuite, nous terminerons en prenant quelques autres exemples bibliques et surtout en actualisant pour que nous comprenions comment ça se traduit dans notre propre formation d'homme spirituel. Mais bénissons Dieu d'emblée de ce qu'il est souverain, de ce que la puissance des ténèbres est vaincue, de ce que l'ennemi est déjà échec et mat, même s'il joue ses derniers coups sur l'échiquier, il est déjà vaincu. Et nous qui appartenons au Seigneur, nous sommes véritablement du bon côté, même si nous passons par des moments qui peuvent être parfois très difficiles.